France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique.
Nous tous, chacun par Jean-Claude Bringuier, l'homme de la forêt. À Montignac, Périgord, Jacques Perrichon, bûcheron de 84 ans, se raconte, à travers l'amour de la musique, sa guerre de 14 dans un orchestre, son entreprise de bois, son métier, le grand métier qu'il fait dans la forêt qu'il adore. Forêt qui, à son âge avancé, lui procure toujours de profondes sensations et satisfactions.
Nous tous, chacun, par Jean-Claude Bringuier.
Bonjour à ceux qui se souviennent de notre émission et à ceux qui l'écoutent pour la première fois. Pour cela, je crois qu'il faut d'abord rappeler le sens du titre. Nous tous, chacun, cela veut dire simplement que chacun de nous mène son existence de façon à la fois communautaire et solitaire. Cela produit en chacun une sorte de chant à deux voix, une double voix. C'est donc ce chant que j'essaye d'entendre ici et là parmi les gens. Les gens dits ordinaires, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas trop l'habitude des discours et des mots. Je crois qu'on peut parler avec bonheur de la vie, du travail, de la mort ou du temps, sans être philosophe ou savant de métier. Nous avons voulu donner la parole aux gens qui d'habitude ne l'ont pas, ou la leur redonner. On sait bien que le métier, le milieu social, la caste politique, parle volontiers à la place des gens. Dans un monde où chacun s'éprouve souvent isolé ou perdu, peut-être aussi n'est-il pas inutile de reconnaître, dans la voix simple des inconnus, ce qu'on entend en soi-même et qui n'est pas dit. Voilà, je vous propose de reprendre les choses exactement là où elles se sont arrêtées à l'automne dernier. Après tout, les conversations libres n'ont ni commencement ni fin. Il y a un an, donc, nous nous trouvions dans la ferme de Jean, le Pyrénéen, et nous parlions de sa vie, de la vie des paysans de tradition. Il était question des services rendus et du devoir d'entraide. Rappelez-vous cette voix rocailleuse, parfois un peu narquoise.
C'est notre vie quotidienne, ça. Bon, on voit le voisin embarrassé, bon, on va lui rendre un coup de main. Il vient vous appeler pour l'aider à sortir d'un four, d'une vache, que sais-je moi, un village difficile. Bon, on y va de suite. Il vient vous demander de transporter une bête à la maison, au marché, on y va. En retour, bon, nous, on va demander à n'importe qui un service. C'est normal pour nous, ça. On ne pense jamais à aller demander à quelqu'un de venir une journée en lui payant. On demande des services, c'est ça, le devoir vis-à-vis des autres. C'est tout à fait normal chez nous.
Sans se demander jamais si un service rendu est plus grand que service donné.
Non. Le fait de faire un service, c'est déjà énorme. Qu'il soit d'une heure, d'une minute, ou de trois heures, ou de la journée.
La question n'est pas là.
La question n'est pas là. C'est le fait de se rendre disponible quand on vous le demande ou quand on demande à quelqu'un de se rendre disponible. Bon, il y a ça, il peut y avoir des malades dans une maison. Bon, on va leur rendre visite, on va les aider, on va les remplacer si on peut. Et vice-versa, je parle toujours de l'aide qu'on peut donner aux autres, mais il nous arrive surtout de recevoir beaucoup plus qu'on ne donne quelquefois. Et c'est souvent pour nous.
Oui, c'est vrai, parce que chacun a tous les autres voisins.
Chacun a tous les autres voisins, voilà. Et on ne peut pas, en effet, comme vous dites.
Hein?
On ne peut pas tout rendre, c'est pas
chacun
possible.
Chacun a tous les autres.
Oui.
Et l'inverse n'est pas vrai.
Et l'inverse n'est pas vrai, oui. Très intéressant. Je n'avais pas vu ça.
Moi non plus.
Je me demandais pourquoi elle ne pouvait pas rendre autant qu'on recevait. Et c'est là la définition, oui.
Ce que vous avez l'air de dire, mais je me trompe peut-être, c'est que la sauvegarde de ce système dont vous parlez, de cette morale, de ce fonctionnement de société, c'est justement qu'on ne peut pas savoir si un service en vaut un autre. Si on le savait, alors le système ne marcherait plus.
Oui, vous avez raison. On ne peut pas évoluer un service.
Mais d'après moi, il faut ne pas pouvoir.
Il faut ne pas pouvoir et ne pas essayer de l'évaluer.
Donc, c'est ça le contraire de l'argent. Parce que l'argent, c'est la valeur exacte d'évoluer un objet de l'extérieur.
Oui, oui.
Ce verre vaut 15 francs. Oui. Cette carafe, 33. Oui. Ce micro,
oui. Ce qui ne veut rien dire, d'ailleurs. C'est une estimation faite par qui ?
Elle est arbitraire ?
Tout à fait.
Elle ne correspond pas ?
Non, pas du tout à la réalité. Personne ne peut le dire.
Bon. Mais d'autre part, elle est arbitraire, mais exacte. On marchandait beaucoup plus autrefois, ou on marchande encore dans des sociétés où l'argent ne joue pas le même rôle qu'il joue aujourd'hui chez nous.
Oui. On marchande encore sur les produits agricoles. Nous marchandons toujours quand nous vendons. Et nous ne pouvons plus marchander quand nous achetons, parce que nous avons en face, justement, un industriel ou un revendeur qui ne peut plus modifier son prix.
C'est-à-dire quelqu'un pour qui l'argent appartient à un autre système que le vôtre.
À un autre système que le nôtre, oui.
Les paysans traditionnels font partie d'un monde qu'on ne peut presque plus comprendre. Ils appartiennent moins au passé, comme on le dit trop, qu'à l'ailleurs. C'est profondément, par rapport à la société citadine, une autre vie.
Quand on rend un service, c'est un besoin que l'on donne à un autre. Bon. Et dans un besoin, c'est toujours, si vous voulez, une catastrophe en quelque sorte. C'est quelque chose qu'on ne peut pas réaliser soi-même et qu'il faut avant tout l'aide d'un autre. Dans ça, il ne faut pas le souhaiter aux autres. Quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire d'eux-mêmes, qu'ils ne peuvent pas réaliser sans l'apport d'une entraide quelconque. Donc ça, il ne faut pas le souhaiter, c'est comme ça que nous raisonnons. Alors leur service que nous recevons, bien sûr, c'est un dû, nous le savons, mais en quelque sorte, nous devons nous réjouir si nous ne pouvons pas leur rendre ce service.
Il y en a qui découragent le service rendu.
Il y en a beaucoup.
Alors le service, on ne le leur rend plus ?
On le rendrait s'il le demande, mais on n'y va pas au-devant.
Avec moins de cœur.
Avec moins de cœur, oui. Quand on sait que celui qui reçoit, reçoit simplement pour la valeur exacte du service, voilà.
Mais justement,
on
a décidé tout à l'heure qu'on ne pouvait pas le définir.
Oui, mais il y en a qui lui donnent une valeur. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne faudrait pas lui donner une valeur à un service.
Oui.
Mais il y en a, bien sûr, qui arrivent à lui donner une valeur.
Comment ils font ?
Je ne sais pas. Ils regardent à peu près le temps qu'ils ont mis ou qu'ils ont reçu. Voilà.
Et ils vous le disent ?
Ah non, pas, ils ne le disent pas, mais on voit d'après les réactions qu'ils peuvent avoir dans leur entourage ou d'après les réactions qu'ils ont quand on va leur demander un service.
On sent qu'ils ont à peu près estimé ce qu'ils vous doivent.
Parce que vous savez, ici, ce que l'on dit aussi, un service ne vaut pas le coup d'être rendu s'il ne mérite pas de le demander. Autrement dit, quelqu'un qui demande un service, automatiquement, on est obligé de lui rendre parce que le fait de le demander, ça vaut une fortune.
Parce que ça coûte.
Ça coûte beaucoup de demander, bien sûr. Ouais. C'est pour ça que celui qui demande, en principe, il mérite d'avoir le service rendu.
D'après ce que vous venez de me dire, il vaudrait mieux que le service ne soit pas demandé. Donc, il vaudrait mieux que les autres devinent qu'il y a besoin de service.
Il y a ça aussi, oui. Oui. Il y a les deux.
Donc, le groupe est un peu coupable si quelqu'un demande un service.
Est un peu coupable, oui, mais on ne peut pas tout savoir. On ne peut pas deviner le matin quand on se lève s'il y a quelqu'un dans la commune qui est dans l'embarras.
Mais il y a cette idée-là un peu quand même.
Il y a un peu cette idée, oui. Oui, bien sûr. Oui, parce que nous vivons dans une société, c'est pour ça qu'on a le souci des autres avant tout. Ce n'est pas comme quand on se lève, on s'en va à sa profession, bon, 8 heures par jour, et puis fini. Nous, quand nous nous levons, nous avons tout notre voisinage là qui vit avec nous. On sort, on rencontre le premier voisin, on sait ce qu'il va faire, on sait à peu près dans la journée, on peut quelque chose de près, on sait où il est.
Ainsi parlait notre ami Jean, le Pyrénéen, du milieu de cette région des Baronnies, splendide et isolée, où il est né et où il vit. Je vous propose de reprendre maintenant notre conversation interrompue, à peu près comme si nous nous étions quittés hier. Bonne façon, je crois, de tromper le temps.
Je repense à ce qu'on disait là, au tout début, sur la différence que vous trouviez importante, Jean, entre ceux qui possèdent le sol et ceux qui n'en sont que les locataires, hein, au point de vue du travail paysan. Bon. Il y a tout de même une façon de voir le travail qui les rapproche, le propriétaire et le locataire. C'est que en général, je sais bien qu'il y a des exceptions, enfin, en général, dans les deux cas, ils sont maîtres du travail. C'est-à-dire que des semailles à la moisson, ils sont gérants de ce qui se passe, de ce qui a lieu. Et les décisions, c'est eux qui les prennent.
Hein? Oui.
Bon, je ne parle pas du cas des ouvriers agricoles, mais enfin, disons, un fermier ou même un métayer et un propriétaire, sous cette optique-là, ont la même responsabilité qui est globale. C'est vrai, non?
Oui. Oui.
Et c'est important quand même, ça, c'est au cœur de la vie du paysan, oui. Ça, d'être patron du travail.
Oui.
Un ouvrier ne fait jamais qu'une portière, oui, de voiture, ou une poignée de portières de voiture.
Oui. Je mets plus d'importance dans le travail dont vous parlez,
oui,
que dans le mot propriété.
Ah.
Ce mot propriété, j'ai presque, à vous dire la vérité, j'ai horreur de ça. Parce que sur cette planète, est-ce qu'on a le droit de propriétaire d'une parcelle de cette planète, quand il y a des milliers d'individus qui n'en ont pas? Moi, je ne sais pas d'où vient cette notion de propriété, mais j'ai toujours eu horreur de ça. Je ne vois pas pourquoi on devient propriétaire d'une partie d'une planète, alors qu'on ne l'est pas du tout, bien sûr, on n'a fait que payer des charges là-dessus. Le fait de dire propriétaire d'une portion de planète, ça c'est horrible.
Et pourtant, vous m'avez dit, quand on est paysan, il vaut mieux être propriétaire que pas.
Je ne vous l'ai pas dit ça. Je vous ai dit que je préférerais être métayer d'une façon. D'une autre façon, je préférerais carrément, parce que je vous ai dit toutes les charges que l'on a, toute la responsabilité que l'on a d'une propriété.
Oui, mais vous vouliez me dire, en réalité, qu'on s'attachait davantage à la terre, oui, quand on en était, oui, propriétaire,
oui,
que pas.
Oui. Parce que là, je parle de l'ensemble des agriculteurs.
Oui.
Je ne parlais pas pour moi-même. Moi, je verrais plutôt le paysan, parce qu'il y a le fait d'être paysan,
ouais,
et le fait d'être propriétaire. Deux choses tout à fait différentes.
Oui.
On peut être paysan sans être propriétaire, avoir les mêmes valeurs, le même esprit, le même idéal, sans être propriétaire. Et je crois que tout compte fait, il serait meilleur. L'esprit d'un paysan non propriétaire que l'esprit d'un propriétaire paysan. Je crois qu'il serait plus facile de former un paysan pour la société, s'il n'était pas propriétaire d'une parcelle de terrain, que de lui donner les notions de propriétaire, qui ne font qu'alimenter un esprit d'égoïsme, après tout. La propriété, je dirais même la famille, pousse un peu l'individu à nourrir un peu d'égoïsme chez lui.
Tout de même, cette idée de legs, de patrimoine dont vous parliez, ce qui dépasse la vie,
oui,
du paysan,
oui,
à chacun de ses bouts.
Oui.
Du côté des ancêtres,
oui,
du côté de la descendance,
oui, si vous voulez,
c'est plus proche de la propriété que non.
Oui, mais c'est parce que c'est un esprit de gardiennage que l'on a, si vous voulez. Parce qu'on nous a mis ça entre les mains pour en être les gardiens toute une génération. Donc on n'a pas le droit de la malmener, de la vendre. C'est ça qui nous tient.
Oui.
Il n'y aurait pas cet esprit de propriété, on n'aurait pas cet attachement aux anciennes générations, on n'aurait rien à se reprocher si on malmenait cette exploitation, si on la vendait, si on faisait. Mais c'est cet esprit de reconnaissance vis-à-vis des autres générations que nous entretenons sur la propriété en question.
Mais ce serait peut-être dommage de se priver de ça, non?
Mais non, quand on fait une réforme comme ça, une révolution, que ce soit foncière ou, ou sociale, bon, on a toujours peur des grandes réformes, mais quand c'est bien étudié, bien appliqué, quand c'est accepté par tout le monde, je crois qu'on devrait pouvoir arriver à faire une société plus juste sans cet esprit de propriété.
On n'aurait plus non plus le souci de la descendance.
On pourrait l'avoir pareil, l'esprit de la descendance. Pareil, exactement pareil. Mais on serait plus libre, je crois.
Qu'est-ce qu'on aurait à léguer si ce n'était pas le seul?
Cet idéal dont je vous parle, qui n'est pas basé sur un bien matériel.
C'est ça.
Qui est basé simplement sur
l'entraide.
L'entraide dans une société.
Le savoir-faire du travail.
Savoir-faire, tout ce qu'on peut donner de son savoir-faire, oui, de ce qu'on a eu l'occasion d'apprendre, ce qu'on a eu tout normalement, par transmission, par...
Et aussi, cette chose particulière qui est à l'origine de la réflexion, qui est que on est maître du travail d'une façon globale.
Oui.
Et pas parcellaire.
Oui.
Et pas amputé.
Oui. Oui, c'est-à-dire qu'on a...
Parce que c'est ça la différence du travail paysan et du travail d'usine ou de bureau.
Oui, bien sûr. On a toute une série de petits travaux qui aboutissent à une création,
c'est le mot.
À un but, alors qu'on ne peut pas avoir dans un travail à la chaîne, même dans un bureau. Moi, je crois que c'est ça l'idéal d'un individu. Pouvoir créer quelque chose.
Vous dites création. Ce qui caractérise une création, c'est qu'elle est différente d'autres choses créées. Création est unique. Est-ce qu'une moisson est unique? Je veux dire, est-ce qu'il y a 36 façons de faire une moisson, de la perdre ou de la gagner, ou il n'y en a qu'une?
Je crois qu'il y a une façon par paysan, presque. Chaque paysan a sa façon de travailler, a sa façon de voir pousser, a sa façon de suivre l'évolution d'une culture, jusqu'à la récolte, la façon de prendre le jour exact de la récolte, tout ce que vous voulez. Tout est lié et ça part du savoir du paysan lui-même. C'est pour ça qu'il y a autant de façons que de paysans.
C'est plus qu'un savoir-faire, c'est une interprétation particulière du savoir-faire.
Oui, 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 bien sûr.
On est au bord du talent, là. Je veux dire, vous parlez de votre métier comme un artiste parle de ses toiles.
Ah, bien sûr, oui, oui, oui. Il faut ça, oui, pour travailler à l'aise. Celui qui ne travaille que par le goût de la rentabilité ou de faire comme les autres, ça ne vaut rien. Il travaille difficilement, il peine, il n'est pas à l'aise du tout. Tandis que celui qui travaille comme un artiste, comme vous dites, il ne trouve pas le travail dur et il ne le trouve pas, il ne trouve pas le temps long.
Est-ce que tout peut s'expliquer dans le travail? Ou est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire comprendre à d'autres?
Et tout s'explique, oui, parce qu'il y a la théorie du travail, il y a quand même des théories que l'on peut mettre sur le papier, mais il y a aussi le savoir, le don de celui qui travaille qui arrive à créer quelque chose et à fabriquer quelque chose. Vous avez l'exemple du fromager. Faire du fromage, c'est tout à fait théorique. Vous avez dans les coopératives tant de lait, tant de présure, tant de matières grasses, tout et tout, et ça vous sort du fromage. Vous avez le fromager qui travaille comme nous, le paysan. Il a, lui aussi, le savoir-faire de la coopérative, parce que la coopérative a appris en quelque sorte chez le paysan, chez le fromager. Mais lui, il a un coup de main. Il ne peut pas vous l'expliquer. Il fait son fromage dans le chaudron, dans un grand récipient, il met sa présure, pareil comme les autres. Il n'a pas de thermomètre pour trouver la température, c'est rare. Mais au coup de main, il sait si le lait est assez chaud ou pas assez. Et puis il fait le cahier, il ramasse son cahier dans le récipient. Mais personne ne peut vous expliquer comment il le fait, ça. C'est un don Et il y en a qui sortent très bien le cahier, d'autres qui ne peuvent pas le réussir.
Et lui-même ne réussit pas les choses à chaque coup de la même façon.
Et il ne le réussit pas chaque fois non plus pareil, non hein? Il fera 10 fromages dans le mois, mais il y aura 10 fromages différents, qui se ressemblent beaucoup, mais pour un connaisseur, il trouvera une différence dans les 10 fromages.
C'est-à-dire que c'est un artiste, mais il n'est pas tout puissant.
Voilà.
Il ne réussit pas son coup à chaque fois.
Voilà. Et je crois que c'est dans tous les domaines, ça. Tous les artistes arrivent à faire des tableaux terribles, et puis ils en loupent plusieurs. Les cinéastes arrivent à faire de bons films, ils en loupent beaucoup. Les paysans réussissent de bonnes récoltes, ils en loupent beaucoup. Dans le même champ, ils feront le matin une bonne culture, le soir, ils louperont la deuxième.
Selon quoi ?
Selon, je ne sais pas, le climat, selon la façon d'avoir préparé le sol. Dans les céréales, pas autant, je vous dirais, parce que maintenant, la technique céréalière a avancé. On arrive à faire l'homogénéité des cultures. Dans l'élevage, par exemple, c'est tout à fait différent. On réussit une bête, on en loupe plusieurs. On fait le caractère de la bête aussi, on améliore une bête où on peut la louper complètement. Un dompteur, par exemple, vous le savez, il peut réussir un domptage, il peut en louper d'autres. Il faut travailler avec le caractère de la bête, il faut travailler avec en ce qui concerne l'exploitation. Il y a la terre, il y a le temps, il y a l'humidité, le taux d'humidité, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Et beaucoup de paysans ne le comprennent pas, ils ont toujours travaillé là-dessus, ils ont réussi, ils ne savent pas toujours pourquoi. Ils ont loupé, ils ne savent pas non plus pourquoi. Et on tourne toujours autour de cette force, si vous voulez, qu'on ignore et que l'on est bien obligé d'accepter.
Et de faire avec.
Et de faire avec, et d'essayer de combattre.
Vous parliez des bêtes.
De s'adapter, toujours, et de ne jamais subir.
S'adapter, ne jamais subir.
Voilà. C'est ma devise, oui. C'est que t'as encore une astuce pour ne pas trouver les problèmes trop durs, les situations trop pénibles.
Parce que ça a l'air de deux mots presque semblables. S'adapter.
S'adapter plutôt que subir, oui.
Je dis, mais pourtant s'adapter et subir, ça a l'air pareil.
Oui. Pourtant, j'y trouve une grosse différence.
Laquelle ?
S'adapter, c'est-à-dire, si vous voulez, accepter, ou pareil, subir, mais d'une autre façon. Sans être obligé de se plier. Suivre le courant, plutôt que de s'arrêter et de se faire renverser.
Et manœuvrer dans le courant.
Manœuvrer dans le courant pour éviter le pire.
Et subir, c'est quoi ?
Subir, c'est carrément plonger et ne plus revoir surface. Parce que c'est dramatique de subir quelque chose que l'on déplore. Si on s'adapte à la situation, bien sûr, on arrive à dominer. C'est difficile, ça aussi, de l'expliquer. Mais pourtant, moi, je le comprends et je le vis, ça.
Nous tous, chacun, par Jean-Claude Brinquier.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 19 août 1980.